Session Deus Caritas Est, juillet 2012, Foi, Espérance et Charité vont de pair, par Dominique et Isabelle Bock.
Donc, Dominique et Isabelle Bock, nous sommes mariés depuis 20 ans, nous avons 4 enfants, nous cheminons avec la communauté, enfin auprès de la communauté depuis une quinzaine d'années, et nous sommes foyer amis depuis 6 ans. Alors là, nous allons essayer de vous parler de la foi, de l'espérance et de la charité, le lien entre ces trois vertus.
Alors, ces vertus trouvent bien sûr leur unité et leur lien naturel dans leur identité même en tant que vertu théologale. Elles se réfèrent directement à Dieu, or Dieu ne se divise pas. Elles nous sont données par le baptême et nous permettent d'atteindre Dieu lui-même en personne. Par la foi, nous l'atteignons, par l'espérance, nous l'accueillons et dans la charité, nous l'aimons. Le catéchisme de l'Église catholique précise « Elles disposent les chrétiens à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Elles ont Dieu un et trine pour origine, pour motif et pour objet. Dieu connu par la foi, espéré et aimé pour lui-même. La foi au Dieu créateur à qui je dois l'existence, l'espérance du retour du Christ Sauveur à qui je dois le salut, la charité de l'Esprit auquel je participe dès à présent. Elles sont infusées par Dieu dans l'âme des fidèles pour les rendre capables d'agir comme ses enfants et de mériter la vie éternelle. Elles sont le gage de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans les facultés de l'être humain. C'est par la grâce de l'Esprit-Saint et sous son inspiration que nous pouvons croire, espérer et aimer, disait saint François de Sales. La foi, l'espérance et la charité puisent leur vitalité dans l'amour divin pour se développer et s'affermir en nous, et c'est dans la mesure où l'âme accueille la présence aimante de Dieu que ses vertus deviennent encore plus saintes et plus fructueuses. Saint François de Sales affirmait que les vertus théologales glorifient la Trinité d'amour puisqu'elles se rapportent directement à Dieu et s'appliquent à rendre honneur à la Divine Majesté. La foi honore le Père car elle s'appuie sur sa toute-puissance. L'espérance honore le Fils car elle est fondée sur la rédemption. Et la charité honore l'Esprit-Saint car elle embrasse et chérit sa bonté.
Alors, toute la tradition affirme le lien qui existe entre ces trois vertus théologales. Saint Paul a donné un incomparable tableau de la charité. C'est l'auteur du Nouveau Testament qui a le mieux dégagé le sens des vertus théologales et leurs relations. Saint Paul juxtapose souvent la foi et la charité. La charité ne vient pas s'ajouter comme du dehors et ainsi compléter la foi. La charité, à savoir l'amour du prochain, est le fruit nécessaire et par conséquent le signe de toute foi authentique. Le texte principal est probablement celui de la première épître aux Corinthiens, où saint Paul affirme clairement « À présent, les trois demeurent, foi, espérance et charité, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. » La foi cédera la place à la vision béatifique et l'espérance sera accomplie dans la possession du souverain bien, tandis que la charité ne passe jamais. Saint Thomas d'Aquin précise « La foi et l'espérance atteignent Dieu sans doute, mais de lui nous provient ou la connaissance du vrai, qui est la foi, ou la possession du bien, qui est l'espérance, tandis que la charité atteint Dieu lui-même pour être établie en lui et non pour que de lui quelque chose nous provienne. L'exercice de toutes les vertus est donc animé et inspiré par la charité. Celle-ci est le lien de la perfection. Elle est la forme des vertus. Elle les articule et les ordonne entre elles. Elle est la source et terme de leur pratique chrétienne. La charité assure et purifie notre puissance d'aimer. Elle l'élève à la perfection surnaturelle de l'amour divin.
Ces vertus surnaturelles orientent dès ici-bas notre pèlerinage vers la patrie céleste. En effet, elles nourrissent notre désir de parvenir un jour à la communion parfaite et éternelle avec Dieu. Saint François attribue un rôle spécifique à chacune des trois vertus théologales. La foi nous montre la félicité, l'espérance nous en donne le désir, la charité nous en donne la possession. Saint Jean de la Croix perçoit dans les vertus théologales l'expression spirituelle des facultés humaines. La foi relève de l'entendement, l'espérance de la mémoire et la charité de la volonté. Mais la charité dépasse en grâce et en perfection toutes les autres vertus. Vertu inégalable entre toutes, non seulement elle embellit le cœur dans lequel elle réside, mais elle bénit et sanctifie aussi toutes les autres vertus qu'elle y rencontre. Saint François de Sales compare la charité au soleil illuminant les étoiles. Elle donne à toutes les vertus leur beauté et leur éclat. Séparées de la charité, toutes les vertus sont imparfaites, car sans l'amour, elles ne peuvent parvenir à leur fin qui est de rendre l'homme heureux. La foi, l'espérance, la crainte de Dieu précèdent la charité dans l'âme pour lui préparer sa place. Mais une fois installées, toutes les vertus lui obéissent et la servent, car c'est la charité qui les anime, les embellit et les vivifie par sa présence. C'est à la charité qu'est donné le salut, affirmait saint François de Sales, puisque la foi et l'espérance disparaîtront lorsque nous serons arrivés dans la gloire céleste. Le salut est montré à la foi, il est préparé à l'espérance, mais il n'est donné qu'à la charité. Saint François de Sales compare la parole de Dieu à un jardin planté de rosiers, dans lequel s'enracinent et se développent les vertus théologales. Les feuilles symbolisent la verdeur de l'espérance, les épines, la lutte de la foi contre les sens et le monde, et les roses, la charité.
Alors, nous voyons donc que les trois vertus théologales sont unies et indissociables. Elles croissent simultanément et trouvent leur perfection dans l'amour de Dieu. On peut même dire qu'elles vivent en interdépendance, se reflétant les unes dans les autres, se mutualisant réciproquement. Elles trouvent même un lien dans leur rapport au temps. La foi se réfère au passé, la charité se réfère au présent et l'espérance se réfère au futur. Alors, dans un développement court mais profond de son encyclique, Benoît XVI nous propose de réfléchir à l'articulation de ces trois vertus. Il dit « L'espérance s'enracine en pratique dans la vertu de patience, qui ne fait pas défaut dans le bien, mais même face à l'échec apparent, et dans celle d'humilité, qui accepte le mystère de Dieu et qui lui fait confiance dans l'obscurité. » Puis il poursuit « La foi nous montre le Dieu qui a donné son Fils pour nous, et suscite ainsi en nous la certitude qu'est bien vraie l'affirmation « Dieu est amour ». De cette façon, elle transforme notre impatience et nos doutes en une espérance assurée que Dieu tient le monde entre ses mains et que malgré toutes les obscurités, il triomphe comme l'Apocalypse se révèle à la fin de façon lumineuse à travers ses images bouleversantes. La foi qui prend conscience de l'amour de Dieu qui s'est révélé dans le cœur transpercé de Jésus sur la croix, suscite à son tour l'amour. Benoît XVI nous dit que l'amour est possible. Il nous invite à vivre l'amour et de cette manière faire entrer la lumière de Dieu dans le monde. Il s'est, dans son récent voyage au Mexique, présenté comme le pèlerin de la foi, de l'espérance et de la charité et nous rappelle que l'homme a besoin d'infini, de plus grand, de plus beau. L'homme est fait pour une plus grande plénitude. Avec la foi, l'espérance, celui qui croit dans le Christ et dans son Église vit et pratique la charité comme élément essentiel de sa mission.
Benoît XVI nous engage donc à faire des vertus théologales des moteurs de la nouvelle évangélisation et de la mission. Nous l'avons vu, la crise actuelle est peut-être financière et ou économique, mais elle est surtout anthropologique ou morale et spirituelle. Nous savons que le monde actuel est marqué par l'absence de repères, la dictature du relativisme, le rejet de Dieu. En niant Dieu, en proposant comme seul critère le relativisme absolu, La foi, l'espérance et la charité, vertu ayant Dieu comme objet, ne peuvent se développer. L'homme se retrouve ainsi seul, angoissé, désespéré, perdu. Il est frappant, mais finalement assez logique, de voir que ce monde marqué par le rejet de Dieu génère une déshumanisation, un développement de l'individualisme et une souffrance morale importante. Souvent, deux phrases, deux interrogations résument le choix et le comportement de beaucoup de nos contemporains, voire de la société elle-même. À quoi bon et pourquoi pas ? Autant d'interrogations révélatrices de personnes déboussolées ou désabusées. Monseigneur Fisichella, en juin 2012, lors de la présentation de l'année de la foi, précisait « Cette crise de la foi exprime une crise anthropologique dans laquelle l'homme est abandonné à lui-même. Il est seul, confus, objet de forces impalpables. Nous voyons tous malheureusement que de nouvelles religiosités se développent et attirent beaucoup de personnes. » Alors, à titre personnel, je me souviens entre autres d'une personne qui avait un très très bon niveau intellectuel qui me disait très sérieusement qu'elle pratiquait tous les matins ce qu'elle appelle le salut au soleil. Alors, j'en suis resté stupéfait. Je me rappelais que le curé d'Ars disait « Enlever le prêtre d'une paroisse, les hommes adoreront les bêtes ». Comment ne pas voir un lien entre l'absence de Dieu et le développement de cette souffrance ? Notre société est marquée dans quasiment toutes ses dimensions, économiques, sociales et civiles, par une profonde déshumanisation corrélative au rejet de Dieu, aboutissant à une négation de l'identité et de la structure humaine. Nous ne sommes pas face à un simple désenchantement passager, une crise économique ou financière, un trouble de l'organisation ou de la régulation sociale, c'est plus profond que ça. Père Bernard nous a plusieurs fois rappelé que ni l'argent, ni les plaisirs, ni les pouvoirs ne rendent l'homme heureux. Deus Caritas constitue la réponse juste et adaptée au monde dont souffre le monde actuel.
Aucune autre valeur ne peut remplacer la foi, l'espérance et la charité pour libérer l'homme et lui permettre un plein épanouissement. La vérité vous rendra libre, disait Jean-Paul II. L'homme est fait pour le bonheur, sa soif de bonheur et de plénitude est immense. Comment peut-on imaginer que l'homme puisse vivre sans croire, sans espérer et sans aimer ? Ce sont là des besoins si vitaux et si fondamentaux que l'existence même de l'homme en dépend, disait François de Sales. Les vertus humaines s'enracinent dans les vertus théologales qui adaptent les facultés de l'homme à la participation à la nature divine. La foi par laquelle on croit en Dieu, l'espérance par laquelle on désire avec confiance ce qu'a promis Jésus, et la charité par laquelle on aime Dieu et son prochain sont à l'origine de l'agir humain, c'est-à-dire qu'elles produisent leurs effets dans nos actions concrètes et tout au long de notre existence. Selon saint Jean de la Croix, la foi combat le démon, l'espérance combat le monde et la charité combat la chair. Les vertus théologales animent et caractérisent l'agir moral du chrétien. Elles vivifient toutes les vertus morales. Elles ne campent pas au-dessus des nuages, mais s'incarnent dans notre vécu quotidien, là où Dieu se présente à nous, concrètement, dans le prochain. La foi, l'espérance et la charité ouvrent notre cœur à l'amour divin et à l'amour fraternel qui consiste à aimer chacun de nos frères avec l'amour du cœur de Jésus. Ces vertus qui parlent plus au cœur qu'à l'intelligence ouvrent notre cœur à la révélation de l'amour divin et nous procurent la joie, la paix et la fécondité spirituelle.
Il nous est donc demandé de vivre et transmettre la foi, de pratiquer la charité et de révéler l'espérance avec confiance et persévérance. Nous sentons bien que seul l'exercice indissocié de ces vertus est pleinement fructueux. Nous le percevons bien dans l'exercice de nos engagements conjugaux et de nos responsabilités parentales et éducatives, ainsi que dans nos actions missionnaires, paroissiales, associatives ou civiles. Il ne nous viendrait d'ailleurs pas à l'idée de séparer ces trois vertus tellement elles sont naturellement indissociables ou liées. Que donnerait une foi sans espérance et sans charité ? Elle serait stérile et ressemblerait plutôt à un conditionnement idéologique et spirituel. Une espérance sans fondement reviendrait à proposer une transcendance factice ou ésotérique. Tout comme la foi se manifeste dans la charité, de même sans la foi, la charité ne serait que philanthropie. Chez les chrétiens, foi et charité s'exigent réciproquement de sorte que l'une soutient l'autre. Nous savons tous que la foi sans la charité durcit et que la charité sans la foi pourrit. En vivant pleinement les vertus théologales, l'homme s'élève et donne une valeur à son engagement. Le rythme de croissance de la foi, de l'espérance et de la charité va de pair avec l'œuvre de purification et avec l'union progressive avec Dieu. L'exercice de ces trois vertus nous invite à la cohérence et à l'unité de vie dans nos actes quotidiens, contribuant ainsi à rendre nos vies pleines, simples et harmonieuses. La foi constitue la racine, l'espérance la fleur et la charité le fruit. Nous pouvons lire dans le document préparatoire du synode des évêques d'octobre, évangélisatrice, l'Église vit la mission qui est la sienne en recommençant chaque fois à s'évangéliser elle-même. Communauté de croyants, communauté de l'espérance vécue et communiquée, communauté d'amour fraternel, elle a besoin d'écouter sans cesse ce qu'elle doit croire, ses raisons d'espérer, le commandement nouveau de l'amour. L'enseignement de l'Église est bien sûr imprégné de ces trois vertus. Nous l'avons vu notamment grâce à Pierre-Olivier dans la doctrine sociale de l'Église, texte marqué par son équilibre, son harmonie, sa cohérence, sa profondeur, mais surtout par la pertinence des réponses proposées à une société brisée, décomposée, sans structure morale et ou spirituelle. Nous pourrions presque dire que certains chefs-d'œuvre de l'art chrétien témoignent à leur manière de l'exercice de ces vertus. Nous pensons par exemple aux cathédrales. Il est impensable d'imaginer leur construction sans foi, sans espérance et sans charité. Benoît XVI, dans une interview, disait que selon lui, l'art et les saints sont la plus grande apologie de notre foi. Nous pouvons bien sûr, dans l'exercice et le développement de ces vertus théologales, nous appuyer à la suite de Jésus, de Marie et de Saint Joseph, sous les saints que Benoît XVI qualifie de vrais porteurs de lumière dans l'histoire, parce qu'ils sont des hommes et des femmes de foi, d'espérance et d'amour. Père Bernard nous en parlera plus longuement tout à l'heure. Comment ne pas penser par exemple aux grands éducateurs, comme Saint Jean Bosco qui ne perdait jamais confiance, et à la source du scoutisme avec Baden-Powell, qui n'est pas saint, mais qui a eu, frappé par une jeunesse désœuvrée, le souci premier d'éduquer avec bienveillance et patience des enfants qui étaient a priori perdus ou égarés. Un chant scout reprend d'ailleurs ces paroles, « Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or ».
Alors, Marie, la première, a appliqué à la perfection ses vertus. Par son union au Christ et par sa charité, Marie est spirituellement notre mère. Lumen Gentium précise, en concevant le Christ, en le mettant au monde, en le nourrissant, en le présentant dans le temple à son Père, en souffrant avec son Fils qui mourait sur la croix, elle apporte à l'œuvre du Sauveur une coopération absolue, absolument sans pareil, par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. Un prêtre, dans son homélie pascale, faisait une analogie entre les premiers témoins de la résurrection et les trois vertus. Sainte Marie-Madeleine, figure de la charité, qui nous apprend à croire en l'amour et à persévérer dans l'amour en toutes circonstances. Saint Jean, figure de la foi, qui ne repose pas sur des preuves matérielles ou des démonstrations mathématiques, mais sur la confiance en la parole de Jésus. Et Saint Pierre, figure de l'espérance. À l'aube de Pâques, devant le tombeau vide, il découvre qu'il a eu raison d'espérer, malgré sa faute, d'espérer contre toute espérance. Plus près de nous, le bienheureux Jean-Paul II et Benoît XVI ont été ou sont les témoins et les acteurs de la foi, de l'espérance et de la charité chrétienne. Le bienheureux Jean-Paul II, ce géant de la foi, qui nous a interpellés avec force N'ayez pas peur, et qui a bouleversé le monde tout en nous touchant profondément et individuellement. Son amour fraternel et paternel se lisait sur son visage. Benoît XVI, lui aussi, rayonnant de paix et de bonté, sans paroles malveillantes, impressionnant de courage, défenseur inlassable de la vérité et de la foi, et soucieux de l'unité de l'Église dans la vérité et la charité. Nous pensons aussi, bien sûr, à la vie du Père Dorn et de Mère Marie-Augusta, qui, par sa charité constante, touchait les cœurs. Enfin, Père Bernard nous rappelait dans la consigne de ce mois que notre Saint-Père, en ces temps troublés, veut nous garder dans la confiance et l'espérance. Éclairés par l'enseignement et l'exemple des saints Pierre et Paul, les croyants du monde entier cheminent sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Dans ce chemin de salut, l'Église est encouragée à poursuivre, forte et sereine, sur le chemin de la fidélité au Christ et de l'annonce de son évangile aux hommes de chaque temps.
Dans une audience générale en février 2009, Benoît XVI nous propose la méditation suivante. Ce n'est que si Dieu existe, cette grande espérance à laquelle je tends, que je peux chaque jour accomplir les petits pas de ma vie et apprendre ainsi la charité. Dans la charité se cache le mystère de la prière, de la connaissance personnelle de Jésus, une prière simple qui tend uniquement à toucher le cœur du Maître divin. Et ainsi on ouvre son cœur, on apprend de lui la même bonté et le même amour. Utilisons cette montée de la foi, de l'espérance et de la charité, nous parviendrons ainsi à la vraie vie.
Et pour conclure, nous vous proposons cette prière de saint François de Sales. Ô Jésus, fais qu'enraciné dans la foi, joyeux dans l'espérance et fervent dans la charité, nous attendions ton avènement dans la gloire, objet de notre espérance. Quand ce grand jour, la claire vision remplace la foi et la possession du royaume remplace l'espérance, fais qu'à notre charité imparfaite succède une charité parfaite pour qu'en elle nous puissions nous réjouir éternellement.
Retrouvez l'intégralité de la session, texte, audio, vidéo sur le site http://session.fmnd.org.